Bonsoir à tous. Des blocages insurmontables auront eu raison de Daniel Zappelli. Procureur général du canton de Genève a fini par démissionner aujourd'hui. Vous entendrez sa déclaration. Voilà donc le ministère public genevois complètement décapité. Ce sera au Grand Conseil de nommer le successeur et non au peuple, comme cela se fait d'habitude à Genève. N'empêche, c'est bien le canton. La fonction de procureur est la plus politisée. Y a-t-il là aussi une leçon à tirer? L'analyse de notre correspondant Mathieu Cuplin et nos invités, les avocats Marc Ancelin et Charles Poncet, ainsi que l'ancien procureur de Genève, Bernard Bertossa, avec nous en ouverture de ce forum. De démission après la Grèce, il en est également question à la tête de l'Italie. Nouveau vote de confiance demain à Silvio Berlusconi, sauf que cette fois, ce n'est pas lui qui initie le vote. Et que la pression européenne, la pression du FMI et surtout celle des marchés est à son comble. On appellera notre correspondante sur place. Le spécialiste Hervé Reynard sera en direct avec nous à 18h30. Faire travailler plus pour gagner moins, payer les frontaliers en euros. Les patrons demandent une plus grande marge de manœuvre pour agir contre le franc fort, disent-ils, au risque de nuire à la paix du travail. Le patron des patrons, Thomas Daum, nous répond dans une vingtaine de minutes. Romain Rezanc de notre rubrique des sports viendra nous donner des nouvelles du navigateur Bernard Stamm. Il a été sauvé in extremis du naufrage, élitreuillé, sain et sauf au large des Açores. Et puis on vous fera entendre une nouvelle voix qui pourrait bientôt vous être indispensable. C'est la voix de Siri que vous offre le nouvel iPhone S4. Magali Philippe nous fera une démonstration de l'utilité de ce robot vocal. Et si on vous en parle, c'est pas pour faire de la pub à Apple, mais bien parce que ce genre d'évolution technologique, leur influence sur nos comportements, interroge beaucoup les anthropologues. Nous avons joint l'un d'eux, il s'appelle Pascal Plantard. Rendez-vous vers 18h35. Enfin, nous terminerons ce forum par une analyse du mal qui ronge le PDC suisse. Le parti est ressorti abattu des élections du 23 octobre. Sa direction est aux abonnés absents, en position de faiblesse avant le 14 décembre. Il est même prêt, ce parti, à lâcher son C, sa bannière chrétienne. Thérèse Meyer le suggérait hier dans Forum. Jacques Nérinck se joint à elle ce soir. Et puis les correspondants fédéraux, le nôtre d'abord, Vincent Bourquin, et l'alémanique Hubert Moser, confronteront leur diagnostic. Un peu moins de nuages prévus dans le ciel demain, quelques belles éclaircies sont même possibles en Valais. 8 degrés à l'aube jusqu'à 15, voire 17 l'après-midi. La météo complète d'Éric Fauchère, juste avant 19h.
Forum, Nathalie Ducommun, Laurent Caspary.
Et c'est dans une brève déclaration aux médias faite en début d'après-midi que Daniel Zappelli a expliqué les raisons de sa démission. Une démission qu'il a annoncée ce matin par mail à ses collègues et par courrier au Grand Conseil. Sur la sellette depuis des semaines, le procureur général du canton de Genève a donc décidé de jeter l'éponge. Il a refusé de répondre aux questions des journalistes, tout comme il a refusé notre invitation. On écoute un extrait de sa déclaration de tout à l'heure.
Il y a moins d'une année, la nouvelle organisation judiciaire fédérale est entrée en vigueur. On peut dire objectivement qu'on en est à ses balbutiements. La mise en place de cette réforme essentielle est délicate, complexe et difficile. Elle s'ajoute en plus aux très lourdes tâches que les magistrats du ministère public doivent affronter quotidiennement. Depuis plus de 15 ans, j'ai manifesté mon profond attachement à l'institution judiciaire et depuis mon élection en qualité de procureur général en 2002, je me suis totalement dévoué à ma fonction de procureur général. Dans cet esprit, je me dois de constater qu'il existe un blocage au sein du ministère public. Ce blocage actuel, j'ai décidé de permettre à ce qu'il cesse d'exister. Dès lors, afin d'assurer le meilleur fonctionnement possible du ministère public, j'ai décidé d'anticiper la fin de mon mandat qui initialement était prévu pour le 31 mai 2014. Je tiens à ajouter une chose, c'est que cette décision n'affecte pas le fonctionnement quotidien du ministère public.
Daniel Zappelli dans sa déclaration de tout à l'heure. Daniel Zappelli qui évoque lui-même des blocages pour justifier son départ. Mathieu Cuplin, on sait en effet que la situation au ministère public était particulièrement pénible. Elle avait même amené le mois dernier les démissions à la chaîne des quatre premiers procureurs.
Oui, ces quatre démissions ont sans doute été un élément déterminant dans le départ du procureur général, car depuis lors, Daniel Zappelli n'a visiblement pas réussi à regagner la confiance de ses troupes. On le sait car il a échoué à trouver des successeurs pour les postes laissés vacants. On se dirigeait donc vers une crise institutionnelle du pilotage du ministère public. Mais cet élément clôture une longue liste de doléances. Tout le fonctionnement du palais de justice souffre depuis des mois, avec des procureurs et des juges surchargés, des greffiers en burn-out, des réorganisations qui grippent tous les rouages de la machine judiciaire. Daniel Zappelli n'est certainement pas le seul responsable, mais ce qui lui est reproché, c'est son manque de leadership, son absence de vision et de soutien à ses collaborateurs. On critique aussi sa capacité de travail et la ligne un peu louvoyante de sa politique pénale. C'est même ce qui lui valait le surnom chez certains de Zapper. Il a fait face à plusieurs échecs, notamment avec les ratés du procès de la BCGE. On se rappelle aussi qu'il a été le premier procureur général à écoper d'un avertissement du Conseil supérieur de la magistrature, même s'il a été blanchi ensuite. C'était dans le cadre de l'affaire dite de l'Angola Gate.
Alors, malgré tout ça, Daniel Zappelli excluait encore tout récemment de démissionner.
Bah, c'est vrai que malgré toutes ces pressions, jusqu'à la semaine dernière encore, hein, il semblait qu'il allait assumer son mandat jusqu'au bout. Son parti n'était pas averti de sa décision, ni la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Tous avouent donc une certaine surprise face au timing choisi. Alors certains émettent des hypothèses, c'est qu'il a peut-être trouvé déjà un poste ou rebondir. Il refuse de s'exprimer à ce propos, mais en tout cas, d'après nos informations, il n'est pas question qu'il obtienne une indemnité de l'État de Genève pour son départ. Et puis, il n'a pas non plus brigué un poste de juge qui s'est libéré au palais de justice.
Alors Mathieu Cuplin, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est le Grand Conseil qui doit lui désigner un successeur.
Oui, les partis sont déjà en train d'affûter leurs armes. Le PLR, en tout cas, veut conserver le poste. Il va donc présenter un candidat, voire un ticket. La stratégie sera décidée prochainement lors d'une assemblée extraordinaire qui reste à convoquer. Et les candidats ne sont pas encore officiellement sortis du bois, mais le PLR aura sans doute le choix entre présenter quelqu'un de très marqué politiquement, comme le député Olivier Jorneau qui est intéressé, ou alors une personnalité interne au palais de justice, moins partisane, plus consensuelle. Là, on pense au président de la Cour de justice, Louis Pella. Avec en Olivier Jorneau, le PLR pourrait sans doute fédérer sur sa droite, notamment à l'UDC, mais un tel profil passerait mal à gauche. Dans tous les cas, le Parti Socialiste va surfer sur la démission de Daniel Zappelli, un échec pour l'ensemble de la droite, selon le parti. Donc le PS compte bien proposer son propre champion, et là on pense notamment au procureur Yves Bertossa ou au juge François Pécher parmi les papables.
Mathieu Cuplin, merci.
Deux avocats genevois sont avec nous, Marc Ancelin et Charles Poncet. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Marc Ancelin, vous êtes en direct à notre studio de Genève. On vous en remercie d'abord sur le diagnostic. Rendons honneur à Daniel Zappelli. Lui-même parle de blocage et puis il invoque, comme il l'a souvent fait d'ailleurs sur nos ondes aussi, cette fameuse réforme judiciaire au niveau fédéral. Est-ce que ça suffit selon vous à expliquer sa démission?
Écoutez, je dirais tout d'abord que Daniel Zappelli démissionne... Et c'est tout en son honneur. S'il constate des blocages institutionnels, il veut éviter par là même que sa personne empêche une réflexion sur les blocages institutionnels de fond, notamment ces questions d'organisation judiciaire, le code de procédure pénale fédérale, qui n'est pas simple à gérer. Et on sent aussi des problèmes au niveau du parquet fédéral.
En même temps, la réforme judiciaire au niveau fédéral, le nouveau code pénal, c'est bon pour tout le monde. Tous les cantons doivent s'adapter. Pourquoi lui réussissait si mal? Quelles sont les erreurs, selon vous, de Daniel Zappelli?
Écoutez, Daniel Zappelli est un magistrat fondamentalement honnête. C'est un magistrat assez consensuel, quelque part, malgré son étiquetage politique. Mais c'est un homme de contact, c'est un homme de dialogue. Cela dit, peut-être que Daniel Zappelli devait avoir une vista un peu supérieure. Peut-être devait-il avoir un sens de l'attaque également, qui lui a fait défaut dans certains dossiers. On attend d'un procureur général qu'il soit relativement agressif. C'est son métier, il doit avoir du venin. Il doit conduire des troupes et à ce sujet, il semble qu'il est, en tout cas c'est de son propre aveu, il est manqué à son devoir.
Charles Poncet, vous avez beaucoup soutenu évidemment Daniel Zappelli au moment de son élection. Vous êtes plus critique aujourd'hui. Quelles sont selon vous ses erreurs?
Écoutez, moi j'ai toujours été d'avis, ayant connu comme tout jeune bébé, ce qui ne dira plus rien à une bonne partie de vos auditeurs, j'ai connu le procureur général Raymond Foy à l'époque de sa candidature. Puis j'ai connu ceux qui lui ont succédé, Bernard Corbeau et Bernard Bertossa. J'ai toujours été d'avis qu'il faut à la tête du parquet une forte personnalité parce que la fonction est une fonction à caractère politique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une fonction qui concerne la cité. Et c'est une fonction qui place un homme ou une femme à la tête d'une structure qui n'est pas facile à diriger. Raymond Foy disait jadis « je suis un peu comme un chef d'études ». Bernard Bertossa disait des choses assez semblables. Et donc il y faut la même autorité, la même force de caractère que pour diriger une entreprise, avec en plus le fait que vous avez affaire à des collaborateurs qui sont des gens eux-mêmes élus et qui parfois vous le font sentir et vous le font comprendre. Donc il faut une forte personnalité. Je pensais que Daniel Zappelli, loin du suffrage populaire à deux reprises, ne l'oublions pas, parce qu'il a battu deux candidats de gauche, je pensais qu'il l'avait au fond de lui avec ce style très conciliateur et très, très, oui, très transactionnel que, qu'évoquait Marc Angelin à l'instant. Je pensais qu'il avait en lui cette force-là. Apparemment, il ne l'a pas eue, ou peut-être l'a-t-on empêché de la trouver. Ce qui m'inquiète plutôt ce soir, si vous voulez, au-delà de la, au-delà de l'analyse qui est une analyse à caractère plus ou moins historique des raisons de la situation dans laquelle nous sommes, c'est ce dysfonctionnement quand même du pouvoir judiciaire genevois qui me préoccupe, parce qu'il ne faut pas oublier que la fonction judiciaire, enfin le pouvoir judiciaire, dans une société qui dit être régie par le droit, qu'il est d'ailleurs de moins en moins, enfin ça c'est un autre débat, la fonction judiciaire c'est diablement important. Il faut qu'elle soit occupée par des hommes et des femmes qui savent ce qu'ils font et qui ont envie de le faire. Donc je suis préoccupé par ce à quoi j'assiste. Mais ce sont sans doute des propos de vieil avocat.
C'est vous qui le dites, Charles Poncet. Vous traitez vous-même de vieil avocat, mais sur la comparaison notamment avec Raymond Foy, on peut dire que lui, il avait réussi ce que Bernard Berthessat aussi a réussi en quelque sorte, c'est se faire respecter tant de la gauche que de la droite, des partis qui n'étaient pas les leurs. Et c'est vrai que c'est une composante de cette fonction qui est délicate à gérer. Et ce que vous nous dites, au fond, c'est que Daniel Zappelli n'y arrivait pas, en termes politiques.
C'est la conclusion qu'on doit tirer. Je ne crois pas qu'il faille le dire sur un plan politique, si vous voulez. Il y avait dans les temps anciens une expression qu'on employait dans les qualifications militaires. Vous savez, on disait de quelqu'un, il s'impose. Berthessat et Foy et Bernard Corbeau se sont imposés. Daniel Zappelli n'y est pas parvenu. Alors, n'y est-il pas parvenu par sa faute, à cause de son style personnel, qui, encore une fois, est plus un style de conciliation que de confrontation? N'y est-il pas parvenu parce qu'on lui a savonné la planche à chaque occasion? N'y est-il pas parvenu pour un ensemble de raisons?
Qui lui aurait savonné la planche, pardonnez-moi,
Charles Poncet? Non, mais il y a eu, j'entends, de tout est... Il faut constater, et je suis le premier à le regretter, ayant été parmi ceux, vous permettrez de le rappeler, qui n'avaient pas, comment dirais-je, qui ne s'étaient pas opposés au procureur Bernard Berthessat, pour ne pas dire plus. Je suis obligé de constater qu'il y a aujourd'hui, à Genève, une magistrature de droite et une magistrature de gauche, et que nous sommes dans une situation qui est une situation qui se rapproche des situations italiennes dans lesquelles, dans les procure, n'est-ce pas, les procureurs se font la guerre entre eux. Et oui. ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on évite. Et donc, il y a là un dossier sur lequel il faut sérieusement travailler, parce que la justice genevoise est en train de dysfonctionner, à mon avis.
Hein. Oui, Marc Angelin, les procureurs se font la guerre entre eux. Les avocats genevois aussi, souvent, on l'entend.
C'est leur métier, les avocats.
Oui, au-delà de leurs affaires, parfois. Mais enfin, bref, c'est pas le sujet de ce soir. Marc Angelin, dites-nous les dysfonctionnements qui ont lieu particulièrement à Genève plus qu'ailleurs. Parce qu'une fois de plus, pour tous les auditeurs qui ne sont pas à Genève, ils se disent mais pourquoi ça marche dans les autres cantons et forcément ça ne marche pas à Genève?
Je ne sais pas si ça marche dans les autres cantons. Je sais qu'au niveau fédéral, c'est aussi assez problématique.
Dans le canton de Vaud, nous dit Charles Poncet.
Oui, écoutez, je ne sais pas si Charles Poncet pratique tous les jours la justice vaudoise. Je ne suis pas absolument persuadé.
Chaque fois qu'il y va, j'ai envie d'y retourner, en tout cas.
Oui, moi aussi. Moi, je pratique aussi dans quelques cantons. Mais la justice genevoise, c'est une beaucoup plus grosse justice, c'est une plus grosse machine avec des affaires souvent d'une complexité beaucoup plus importante. On pense au fait que les banques sont souvent présentes à Genève, les grosses affaires de blanchiment, etc. d'un côté, puis d'un autre côté, vous avez beaucoup de petites criminalités avec un grand écart qui n'est pas toujours facile à faire. Donc moi, je souscris entièrement aux propos de Charles Poncet sur la polarisation du parquet, non seulement du parquet, mais de la justice genevoise en général, mais ça participe de la vie politique genevoise également. Je dirais qu'en Valais, on a plutôt une unipolarisation de la politique et de la justice, et à Genève, on a une dualisation. Mais au-delà de ces questions politiques qui finalement n'affectent que de grands dossiers ou des dossiers qui sont assez connus, le problème de Genève, c'est que les procureurs manifestement ne sont plus motivés. Ils n'avancent plus dans les dossiers, et à la fin, qu'on soit de gauche ou de droite, il faut poursuivre des auteurs d'infractions, des suspects, sur la base d'un code pénal qui a été décidé, approuvé par un Parlement. Et là, le vrai problème se trouve dans le sens que les procureurs procureurs sont manifestement peu désireux d'aller jusqu'au bout de leurs enquêtes, avec un code de procédure pénale qui, un nouveau code de procédure pénale qui, il est vrai, ne permet pas, je dirais, de trancher rapidement des infractions qui normalement devraient être liquidées. Je pense notamment à l'ordonnance de condamnation qui, à Genève auparavant, pouvait être rendue pour les infractions en dessous de 18 mois d'emprisonnement. Maintenant, c'est 6 mois d'emprisonnement. On a une procédure dualiste, à savoir normalement que les procureurs doivent non seulement enquêter, mais doivent poursuivre devant le tribunal. Donc on a une procédure, je dirais, américaine d'un côté, mais d'un autre côté, nos procureurs n'ont pas les moyens et encore moins la volonté d'attaquer. C'est leur métier. Leur métier, c'est l'attaque. Et ils n'attaquent plus. Et c'est tout à fait dramatique pour des parties civiles qui déposent plainte pénale. Et je dirais même que c'est aussi problématique pour les personnes qui sont accusées, qui doivent attendre des années avant d'être jugées.
Marc Ancelin, maintenant, c'est le Grand Conseil qui va devoir élire un successeur. Ça ne pose pas un problème, sur le fond. Les Genevois ont l'habitude d'élire eux-mêmes leur procureur. Et là, c'est la Constitution qui le veut, mais c'est le Grand Conseil qui va devoir le faire.
Non, mais c'est normal.
Écoutez,
alors Marc Ancelin d'abord, oui, puis Charles Poncet après.
Charles Poncet, je vous laisse la parole bien volontiers.
Non, mais Marc Ancelin, peut-être répondez sur le côté. On dit qu'à Genève, c'est plus politisé qu'ailleurs. Non seulement parce qu'il y a le peuple, et puis bon, maintenant c'est le Grand Conseil, ça va forcément donner des guerres politiques, etc. Est-ce que c'est un problème ?
Pas forcément. Les partis politiques peuvent avoir intérêt, précisément, à avoir une justice qui fonctionne et à trouver un candidat idéal qui transcende un tout petit peu les partis. Est-ce que ce candidat peut venir de l'extérieur ? C'est une possibilité. Mais je pense au contraire qu'un grand conseil majeur, conscient de ses responsabilités, devrait élire une personnalité pour ses qualités de meneur et non pas une personnalité pour des majorités politiques.
Charles Poncet, vous pensez qu'au grand conseil, on a saisi cette dimension-là, qu'on est prêt à recruter un meneur, quelqu'un qui ait toutes les capacités humaines qu'il faut pour ce poste-là, et non le poulain du parti, parce qu'on aimerait avoir le pouvoir à Genève ?
Alors, j'en suis tout à fait convaincu. Le problème, c'est que les candidats ou les candidates de qualité ne se bousculent pas au portillon. Oui. Vraiment, idéalement, enfin, je ne veux pas qu'on m'accuse de meneurie, mais idéalement, il faudrait réélire ou Bernard Bertessa ou Raymond Foy. Pour Raymond Foy, ce serait difficile, ou Bernard Corbeau.
Ça va lui faire plaisir parce que Bernard Bertessa, il vous écoute en ce moment. Ben, on va tout de suite l'accueillir.
Je le salue. Mais il y a Yves Bertessa, son fils, qui a d'excellentes qualités, qui est un très bon magistrat, mais qui, à mon avis, est encore un peu jeune. Vous me permettrez ces propos de vieillard.
Mais enfin, Charles Poncet...
Il faut encore un peu de bouteille. Non, ouais. ce qu'il faut, c'est... une personnalité. Si vous voulez, quand on a élu Bernard Bertessa ou quand on a élu Raymond Foy, les socialistes disaient « Ah, c'est un libéral, mais il est incontestable. » Les libéraux disaient « Ah, c'est un socialiste, mais il est incontestable. » C'est un peu ça qu'il faudrait essayer de trouver dans une situation qui est quand même devenue beaucoup plus difficile parce que l'appareil s'est bureaucratisé. Il y a des lourdeurs incroyables que décrivait Marc Ancelin tout à l'heure. Donc vous avez affaire à une administration sur le plan administratif et un pouvoir sur le plan institutionnel qui est en train de dysfonctionner.
Charles Poncet,
ce serait peut-être quelqu'un qui viendrait de l'extérieur. Voyez-vous.
Alors, ce serait pas Olivier Jorno. J'aimerais qu'on reste sur les successeurs. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que je suis pas sûr. Est-ce que la gauche pourrait accepter Olivier Jorno ?
J'en sais rien. Il faut lui poser la question. Elle, à ma connaissance, il n'est pas candidat du tout. Et c'est pas.
Mais c'est son nom qui circule.
Non, c'est pas à ça que je pensais. Moi, je pense de l'extérieur, si vous voulez, au sens cantonal. C'est-à-dire, je me demande si dans la Genferaille ambiante, la meilleure chose ne serait pas une forte personnalité d'un autre canton. Quelqu'un de solide, homme ou femme, encore une fois,
avec les idées claires
et droit dans ses bottes. J'y ai pas réfléchi comme ça, si vous voulez, mais je pourrais avoir une ou deux idées dans quelques jours, oui, si vous voulez bien que nous reparlions de ce sujet.
Charles Poncet, je ne censure en aucun cas vos propos qui sont tout à fait intéressants. Malheureusement, votre ligne téléphonique n'est pas très très bonne. Alors, si vous le voulez bien, on va prendre congé de vous maintenant. J'espère que vous pouvez entendre la fin de cette discussion. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, Charles Poncet. Marc Ancelin, juste un mot peut-être sur ce que vient de nous dire Charles Poncet. Quelqu'un dans le canton de Vaud ?
Non, mais dans le canton de Vaud ou ailleurs, finalement, au niveau fédéral, on a trouvé un procureur qui était en poste au Liechtenstein. Effectivement, on peut tout à fait envisager une personnalité qui fasse l'unanimité et qui vienne de l'extérieur du canton. Au contraire, moi, je trouve que c'est une excellente idée.
Bernard Bertessa, bonsoir. Vous êtes avec nous, Bernard Bertessa ?
Oui, je
vous entends.
Voilà, je vous entends à présent. Je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints en cours de route. Alors, on va être clair, hein, vous ne souhaitez pas vous exprimer, on peut le comprendre, sur Daniel Zappelli, les raisons de sa démission, etc. Et puis, Charles Poncet l'a dit lui-même. C'est vrai que votre fils, son nom, Yves Bertessa, circule également. On va être prudent. Par contre, ça nous intéresse quand même cette dimension qu'on évoquait à présent avec nos invités. Politisation, on disait, mais c'est trop politisé cette fonction. Et puis, finalement, Charles Poncet et Marc Anzin nous dit bah oui, puisqu'on pourrait aussi aller chercher ailleurs. Il faudrait peut-être sortir du giron des partis politiques. Sur cette question-là, vous pourriez imaginer un procureur général du canton de Genève qui vienne de France, Liechtenstein ou du canton de Vaud?
Ah, de France, ce serait difficile parce qu'il faut qu'il ait une nationalité suisse, mais enfin, il y a
pas de problème. Mais il y en a, des binationaux.
Non, je pense que là, c'est pas du tout le problème. Le problème qui est posé par les interlocuteurs précédents, celui de la politisation, il est évident. Je veux dire, dans un État démocratique, les trois pouvoirs de l'État sont assumés par des magistrats, que ce soit des députés, que ce soit des conseillers d'État ou que ce soit par des juges ou des procureurs, qui doivent avoir une certaine légitimité. Or, cette légitimité, la meilleure manière de l'obtenir, c'est de la tenir du peuple lui-même. C'est pour ça que le système qui veut que l'on élise non seulement le Parlement, mais aussi le gouvernement, mais aussi les juges, est un excellent système dans son principe. Et chaque fois que c'est possible, ça devrait être le cas.
Mais Bernard Bertessa, est-ce que ça ne politise pas, par contre, à l'extrême, quand même, cette fonction? On voit que dans les autres cantons, c'est les parlements hein, qui élisent les procureurs. Et là, bah, y a campagne, donc il y a forcément parti. Et partout ailleurs, c'est un peu moins politisé qu'à Genève.
Je ne pense pas que ce soit moins politisé. Simplement, c'est peut-être plus discret. Mais lorsqu'un procureur doit être élu par le Parlement, il est élu par des députés qui appartiennent à des partis politiques différents et qui ont des visions différentes de ce que devrait être la justice. C'est inévitable. C'est inévitable. Parce que quelle que soit la personne que vous allez désigner, nommer ou élire, on peut espérer que ce soit une personne qui aille des idées politiques. Je vois mal un ectoplasme dont le cerveau aurait écarté toute idée sur la vie en société, d'être élu dans une fonction quelle qu'elle soit. L'avantage du système qui fait intervenir les partis politiques, que ce soit directement par le peuple ou que ce soit à travers le Parlement, c'est qu'au moins les candidats sont des candidats dont la couleur politique, dont la philosophie, si vous voulez, est annoncée. On sait à qui on a affaire.
Mais ça implique tout de même, Bernard Bertessa, et c'était l'occasion pour Charles Poncet de vous rendre hommage à vos côtés Raymond Foy, Bernard Bertessa. Il disait, mais vous réussissiez à vous faire respecter par l'autre bord politique, en quelque sorte. C'était votre carrure, comme ça, qui s'imposait. Et c'est vrai que, du coup, dans le recrutement de ce nouveau procureur, on doit avoir cette composante-là. Le fait d'être politisé implique qu'on ait des compétences de gestion de l'ennemi politique, en quelque sorte. C'est un peu compliqué, non ?
Non, simplement, c'est philosophiquement assez rassurant de constater que, quelles que soient les institutions, finalement, leur bon ou leur mauvais fonctionnement dépend des personnes qui sont chargées de les mettre en œuvre, que ce soit des juges, des procureurs, des conseillers d'État, des députés ou qui que ce soit. Donc, c'est vrai que la personnalité, ce qui caractérise la fonction de procureur général, c'est qu'il est seul. Généralement, il est seul à faire l'objet d'une élection populaire. Tandis que le gouvernement, ils sont 7, le Parlement, ils sont 100 ou 80, suivant les cantons. Donc on peut avoir une espèce de proportionnalité respectée dans l'élection de ces magistrats-là. Pour le procureur général, il est seul. Donc quand il n'y en a qu'un, on ne peut pas avoir quelqu'un qui soit à moitié de gauche, à moitié de droite. Il faut donc désigner une personnalité qui, tout en affichant ses couleurs politiques, soit capable, évidemment, de faire fonctionner l'institution sans tenir compte de son appartenance partisane. Alors là, bien sûr que parfois les choix sont bien faits, parfois ils sont mal faits.
Bernard Bertessa, je vous remercie, cet ancien procureur du canton de Genève. Je vous souhaite une bonne soirée. Marc Anzelin était également avec nous en direct de notre studio de Genève, avocat. Vous êtes spécialiste notamment du droit international, mais vous aviez évidemment votre opinion sur ce qui se passe au ministère public genevois, décapité, on l'a dit, puisque Daniel Zappelli a enfin démissionné. Merci Marc Anzelin.
Bonne soirée.
Bonne soirée à vous. Thomas Daum nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Le patron des patrons, c'est vous. Thomas oui. Daum.
C'est une façon de parler. Hein.
C'est une façon de parler, effectivement, mais au moins ça dit bien qui vous êtes et ce que vous faites. Vous êtes venu ce matin devant les médias, l'Union patronale, parler d'une marge de manœuvre dont vous auriez besoin. On sait que les entreprises exportatrices souffrent du francfort. Le francfort a un peu bon dos parce que vous arriviez avec un certain nombre de propositions. Vous n'allez pas de main morte. Il faudrait que vos employés travaillent plus pour gagner moins. Il faudrait que les employés frontaliers soient payés en euros. Vous n'avez pas peur de mettre en danger la paix du travail en Suisse, Thomas Daum ?
Oui, alors on a bien souligné que toutes ces mesures ne devraient pas être prises sans urgence, c'est-à-dire il s'agit des mesures urgentes et c'est seulement comme ultima ratio qu'une entreprise devrait prendre ces mesures, c'est-à-dire en bien discuter la position aussi des syndicats qui disent, bon, le problème est d'abord situé dans les cours du franc suisse, le franc suisse qui est trop fort, et qui se sont exprimés contre toute autre mesure qui sont prises dans les entreprises. Mais les entreprises, ils ne peuvent pas attendre jusqu'à ce que le franc soit à 1,30 ou à 1,40, mais il faut prendre des mesures maintenant. Mais nous avons toujours souligné que, comme je viens de dire, il ne faut pas prendre des décisions touchant le personnel sans nécessité.
Oui, bien sûr, mais admettons qu'on doive arriver à ces cas extrêmes. Et avant d'aborder la question du seuil du francfort que vous évoquez, Thomas Daum, juste sur cette histoire de salaire en euros, c'est contraire à l'esprit des bilatérales et puis des mesures d'accompagnement. Il est évident que ça encourage les entreprises à embaucher des frontaliers qui seront moins payés. C'est du dumping salarial, quoi.
Non, ce n'est pas nécessairement le cas. Alors là aussi, nous avons mentionné les problèmes qui pourraient se montrer vis-à-vis l'accord avec l'Union européenne concernant la libre circulation des personnes. Et ce que nous voulons de toute façon pas, c'est le dumping salarial. C'est-à-dire, on a les commissions tripartites dans les cantons qui s'occupent du marché du travail, qui voit à ce que le marché de travail ne va pas vers le dumping salarial. Et ça, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire, il faut prendre ces mesures de telle façon qu'on n'arrive pas à un dumping salarial.
Thomas Daum, pour une fois, syndicats et patronat étaient d'accord sur une mesure. Hein, on a parlé du plancher du franc face à l'euro. Il faut l'augmenter, un 30, un 40. Pour une fois, vous étiez d'accord. Il y avait peut-être moyen de faire pression vraiment sur cette thématique. Là, au contraire, vous rouvrez un peu, vous déterrez la hache de guerre avec les syndicats.
Non, alors je crois on est d'accord en ce qui concerne les problèmes du francfort. On a un peu une vue différente en ce qui concerne les relations vis-à-vis la Banque nationale suisse. Nous sommes dans une position qui dit ça, c'est notre appréciation de la situation. Nous avons dit que avec le taux de change du francfort suisse, c'est-à-dire le francfort qu'on a maintenant, ça suffit pas, c'est-à-dire ça va être très compliqué, très difficile pour pas mal d'entreprises de survivre, c'est-à-dire il faut affaiblir le franc vis-à-vis l'euro jusqu'à 1,30, 1,40. Alors là, on a un peu plus de souffle pour les entreprises, mais alors là, on est d'accord, mais nous respectons l'indépendance de la Banque nationale suisse. On présente nos estimations de la situation et alors on sait que la Banque nationale suisse se rend bien compte des difficultés de l'économie, c'est-à-dire c'est à la Banque nationale suisse de se décider, pas seulement en vue de nos demandes, en vue de nos estimations de la situation, mais aussi en vue de ce qui se passe sur les marchés des changes. Alors c'est trop compliqué pour nous de dire à la Banque nationale maintenant il faut augmenter à 1,40 ou 1,30, mais c'est la Banque nationale qui est compétente, pas seulement du point de vue légal, mais aussi du point de vue professionnalité, pour prendre les décisions qui sont nécessaires.
N'empêche que la BNS est sensible et elle en a besoin d'ailleurs de signaux clairs, non seulement de votre part, mais aussi de la part du Conseil fédéral. On peut considérer vos propos comme assez clairs ce soir, Thomas Daum, et on vous en remercie. Vous êtes directeur de l'Union patronale. Je vous souhaite une bonne soirée.
Très bien, merci.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Genève-Lausanne, la sortie de Morges-Ouest est toujours fermée en direction de Lausanne en raison d'un accident. De forts ralentissements sont signalés à l'approche de ce secteur. Les automobilistes désirant se rendre dans la région de Morges sont priés de sortir à Aubonne et d'emprunter la route cantonale.
En voile, la transat en double entre le Havre et le Costa Rica s'est achevée au large des Açores pour Bernard Stamm. Le marin vaudois et son équipier Jean-François Cuzon ont été contraints à l'abandon ce matin alors qu'ils pointaient en troisième position. Retour sur cette mésaventure avec vous, Romain Rosing.
Bien, tout a commencé la nuit dernière lorsque les deux hommes ont constaté une importante voie d'eau à l'avant de leur bateau. Un monocoque flambant neuf pourtant de 18 mètres de long, tout juste sorti du chantier Décision à Morges. Alors on ne sait pas pour l'instant ce qui a pu provoquer ce trou sur la coque qui a permis tout de même à 2 tonnes d'eau de s'engouffrer à l'intérieur. Bernard Stamm et Jean-François Cuzon ont cependant pu sécuriser leur embarcation, mais pas la réparer. Les détails avec le navigateur vaudois interrogé par son service de presse.
Ça s'est passé en tout début de nuit, une dépression, donc on s'attendait à avoir pas mal de vent. On allait assez vite, mais sans plus. On allait à une quinzaine de nœuds, je pense, 15-16 nœuds. En train de préparer à faire le changement de voile avant, donc mettre l'ORC. Du coup, je suis rentré dans le bateau pour aller chercher quelque chose, et c'est là que j'ai vu que le bateau était plein d'eau, quoi. Donc, c'était un gros problème en vue, quoi. Donc, on a immédiatement roulé la voile d'avant, arrêté le bateau, et voilà, on s'est arrêté.
Devant l'ampleur des dégâts, Bernard Stamm et Jean-François Cuzon ont dû se résoudre à déclencher ce matin vers 10h15 leur balise de détresse. Une opération de secours a dès lors été lancée. Les deux marins ont été élitreillés, sains et saufs cet après-midi. Un sauvetage toutefois spectaculaire, Bernard Stamm.
On a essayé déjà de voir si on pouvait se faire aider sans déclencher une détresse. Visiblement, ce n'est pas le cas. La mer était trop mauvaise pour que quelqu'un vienne nous aider, quoi. Et puis après, on s'est dit, vu la météo, vu les conditions, c'était pas raisonnable de rester. Du coup, on a déclenché la balise de détresse. Après, l'électroyage, ça s'est très bien passé, hein. Déjà, on a complètement sécurisé le bateau, quoi. Et après, on a attendu les secours. Et quand ils sont arrivés, ils nous ont dit ce qu'il fallait faire, quoi. Donc, on a mis le radeau de survie à l'eau. On a débarqué avec les balises de détresse et on a embarqué dans le radeau de survie. De là, on a coupé les liens qui nous retenaient au bateau et ensuite, on s'est fait litrailler, quoi. Donc c'est un plongeur qui descend nous chercher et qui nous ramène à l'hélico.
Bernard Stamm et Jean-François Cuzon se trouvent actuellement sur la terre ferme des Açores, restent désormais à sauver leur bateau. En raison d'une mer agitée avec des creux de 6 mètres, le remorquage par chalutier ne pourra cependant pas avoir lieu avant 48 heures. Une mauvaise nouvelle de plus, puisque le navigateur vaudois devait participer l'an prochain au Vendée Globe avec cette embarcation, qui risque donc d'être fortement endommagée.
Romain Rosang de notre rubrique sportif.
Forum, Nathalie Ducommun, Laurent Caspari.
Et journée politique fébrile aujourd'hui en Italie, à la veille d'un vote crucial pour le gouvernement Berlusconi. Demain, les députés voteront à nouveau sur les comptes 2010 de l'État et le centre-droite au pouvoir pourrait se retrouver minoritaire ou alors bénéfice d'une très légère majorité dans les deux cas de figure. En tout cas, Silvio Berlusconi se retrouvera encore plus fragilisé et pourrait quitter le pouvoir, même si le Premier ministre italien a démenti cet après-midi les rumeurs autour de sa démission.
Et les nombreuses rumeurs, en effet. Hervé Renner est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
En direct, ici dans notre studio à Lausanne, vous êtes politologue à l'Université de Lausanne, vous êtes spécialiste de l'Italie. Qu'est-ce qu'il va se passer pour Silvio Berlusconi? Est-ce qu'il pourrait d'ailleurs démissionner, simplement pour sortir de la tête haute?
Alors effectivement, ce n'est pas à exclure, hein, mais il y a plusieurs scénarios possibles. Un gouvernement technique qui pourrait avoir à sa tête Mario Monti, un élargissement de la majorité à un groupe centriste, c'est-à-dire l'UDC, c'est-à-dire un ancien groupe issu de la démocratie chrétienne, une démission de Berlusconi, un gouvernement très très transitoire en vue d'élections donc anticipées à 2012. Hein, plusieurs scénarios sont possibles, d'autant qu'on en est au point de compter les voix, hein, puisqu'il faut une majorité de 316 députés pour demain.
N'empêche que s'il démissionne, ça pose problème pour le plan de sauvetage européen, ça montre une Italie qui jette un petit peu l'éponge, ça affaiblit ce plan de sauvetage ou pas ?
A priori non, puisqu'il est plutôt poussé vers la sortie par, entre guillemets, hein, les marchés financiers, hein, il y a une pression très très forte, on le voit aussi avec les oscillations des cours, ne serait-ce que ce matin, hein, en fonction des démentis de sa démission, donc a priori ça ne gênerait pas, a fortiori si c'était Mario Monti, un ancien commissaire européen qui serait nommé président du Conseil.
C'est quoi? C'est plus personne n'a confiance en Berlusconi, en premier lieu les marchés justement qui vont réagir positivement s'il démissionne?
Sans doute. Alors il y a une pression très très forte, il faudrait revenir quelques mois en arrière, hein. même une année. Alors il y a eu des défections, faut se rappeler qu'il y a un an et demi, il y a quand même Gianfranco Fini qui préside la Chambre des députés qui a fait défection hein, de la majorité. Depuis on a eu de nouvelles défections au sein même de son parti, ne serait-ce que hier, il y a encore 3 députés qui ont changé de casaque, même si c'est assez, un phénomène assez courant en Italie. Et puis ces marchés financiers dont la presse, hein, par exemple The Economist en juin titre faisait sa une sur l'homme qui avait grugé tout un pays hein, avec la une sur une photo de Berlusconi, et le Financial Times pas plus tard que vendredi a publié un éditorial très très dur invitant, enfin une injonction vraiment à démissionner hein, vraiment très très dur.
Oh, mais connaissant le personnage Hervé Renner, plus on lui demande de démissionner moins il le fait, et puis les votes de confiance il y en a eu plusieurs, il les passe chaque fois on a fait plusieurs analyses, on a eu plusieurs invités à chaque fois, ouais, ça y est il va démissionner. Non, il sauve tout le temps sa peau.
Alors c'est sûr, il va s'accrocher. Hein. Il ne faut pas oublier que Silvio Berlusconi est entré contraint et forcé en politique. En 1994, il entre en politique pour échapper aux poursuites judiciaires
et
à une faillite probable de son empire, hein, de ses holdings familiales. Donc voilà, il est là aussi pour promulguer des lois. D'ailleurs, c'est un des indices aussi de sa vulnérabilité actuelle, hein, c'est-à-dire que la majorité ne parvient plus à se rassembler que pour ce qu'on appelle en Italie les lois personam, hein, les lois qui concernent au plus près ses intérêts financiers ou judiciaires.
Certains affirment que l'opposition pourrait s'abstenir demain, justement pour pas donner un signal négatif à l'Europe ou au FMI.
Tout à fait, c'est pas tant le vote de demain qui va servir de test, a priori ouais. C'est faisable, mais mercredi ou jeudi, un vote de confiance dont Berlusconi dit vouloir absolument subir le test pour, je le cite, hein, voir de ses propres yeux qui osera le trahir.
Qui osera le trahir? On va le voir dans les prochaines heures si ça arrive. Hervé Renner, je vous remercie beaucoup d'être venu en direct dans notre studio. Je rappelle que vous êtes politologue à l'Université de Lausanne. Je vous souhaite une bonne soirée. Et Magali Philippe a fait son entrée dans le studio avec un téléphone portable. Nos téléphones portables qui nous obéissent désormais au doigt et à la voix. Magali, depuis quelques jours, les clients suisses d'Apple disposent en effet de ce logiciel de reconnaissance vocale. Il s'appelle Siri. Un logiciel qui tente de vous répondre quelle que soit la question que vous lui posez. Alors quand on dit quelle que soit la question, ça je mets en doute pour avoir plusieurs collègues qui sont venus nous faire la démonstration. Alors j'espère que la vôtre sera réussie. Bon, quel impact a cette technologie toujours plus présente sur nos vies? Est-ce que ça va pas finir par nous rendre maboule toutes ces technologies? C'est ce qu'on va voir dans un instant avec un anthropologue des technologies, c'est vous qui l'avez joint tout à l'heure, Laurent Caspary. D'abord, Magali Philippe, vous nous présentez Siri.
Alors Siri veut avant tout nous rendre service, voilà pour le texte de promo qu'on trouve sur le site d'Apple. Donc avec le chef de la rubrique multimédia, Antoine Droux, qui dispose de Siri sur son téléphone, nous avons testé l'une de ses fonctions essentielles, celle qui devrait nous permettre de gagner du temps.
J'aimerais envoyer un SMS à Magali Philippe.
Je ne vois pas de contact appelé Magali Philippin dans votre carnet d'adresses. Peut-être vouliez-vous parler de l'un d'entre eux, Magali Philippe ou Frédéric Philippin.
Magali Philippe.
Le SMS a été reçu, c'était bon. Mais en vrai, la requête et sa réalisation prennent quasi 45 secondes, soit beaucoup plus de temps que d'écrire soi-même un SMS. Les ingénieurs qui ont créé Siri ont souhaité qu'il ait réponse à tout. Deuxième test. Siri, quel est le sens de la vie?
Essayer d'être gentil avec son prochain, éviter de manger trop gras, lire un bon livre de temps en temps, faire des promenades à pied et essayer de coexister en paix et harmonie avec les personnes de toutes les croyances et de toutes les nations.
Non mais ça c'est une fausse voix, c'est pas Siri.
C'est
ça.
Siri, espérons que le message soit passé. Il a quand même fallu s'y reprendre à plusieurs fois. Les premières réponses à cette question, quel est le sens de la vie, étant 42. Donc, beaucoup de réponses à côté, inappropriées, qu'il faut répéter. Mais Siri, nous promet Apple, s'améliore constamment. Nous avons donc tenté une dernière question.
Qui est Pascal Plantard?
Je ne vois pas de contact appelé Pascal Plantard dans votre carnet d'adresses. Peut-être vouliez-vous parler de l'un d'entre eux, Pascal de Caillet ou Pascal Bernet?
Non, aucun des deux. Recherche sur le web.
D'accord.
Pascal Plantard, anthropologie des usages des tics.
Et là, c'est correct, non, Laurent Caspary?
Presque. Pascal Plantard, anthropologue des usages des technologies de l'information et de la communication à l'Université de Rennes. C'est lui que nous avons atteint tout à l'heure et nous lui avons commencé par lui demander quels étaient les risques, en fin de compte, de cette humanisation de la technologie.
Les risques, c'est un peu les mêmes que tout ce que nous, on appelle la socialisation des technologies. Alors, les technologies, lorsqu'elles naissent, elles apparaissent comme des innovations, comme quelque chose qui brille. Hein. C'est le moment où on nous les présente, parées de toutes les vertus, elles vont tout faire. Alors, pour Siri, on est clairement dans ce moment-là. Il y a un deuxième temps dans la diffusion de ces technologies, c'est le temps de la massification, où finalement des technologies un peu désenchantées, un peu plus proches de nous se diffusent. Et puis il y a le troisième temps qui est le temps des usages. Alors le temps des usages, ça provoque des normes, ça provoque en fait une banalisation de la technologie. Donc aujourd'hui avec l'Internet, on est là-dessus. On est dans le deuxième temps pour l'Internet mobile, les smartphones, les tablettes, etc., etc. Et on est dans le premier temps pour Siri et l'hybridation vocale. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ben, il va se passer que certaines populations plutôt à l'aise avec les technologies, plutôt technophiles, ne vont pas avoir de difficulté à converser avec ces machines. Mais que plein d'autres, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'Internet mobile, voire même avec l'Internet classique, vont petit à petit faire émerger un certain nombre de difficultés, qui ne sont pas des difficultés technologiques, mais plutôt des difficultés culturelles. C'est un peu comme ça qu'on crée à la fois des nouvelles pratiques qui se transforment petit à petit en normes, en usages, mais aussi qu'on crée des poches de, on va dire, au moins de rejet, de méfiance, voire de résistance.
Question simple, est-ce qu'on va pas devenir tous un peu dingues avec ces sollicitations? Le téléphone, ça sonne, ça bip, ça alerte, il y a des alertes push, maintenant ça répond, ça parle. Il n'y a pas un risque là?
C'est déjà le cas. On est déjà pas tous. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais je suis plutôt un spécialiste des questions de fracture numérique, de réaction, on va dire, vis-à-vis de la massification des technologies de certains groupes sociaux plus ou moins proches ou lointains des usages des technologies. Donc quand vous me dites est-ce qu'on va pas devenir tous un petit peu dingues, il est absolument évident que l'attention humaine, que le temps disponible aux machines est un temps qui doit être pris sur quelque chose. Alors quand je dis qu'il doit être pris sur quelque chose, il est évident que un téléphone, ça s'éteint, une fonction vocale, ça s'éteint aussi, un ordinateur, ça s'éteint. Et certains publics, on parle souvent de ces branchés là que l'on nomme geeks hein, dans le vocabulaire techno, certains publics n'éteignent jamais rien, hein, se s'hybrident complètement dans les technologies. À côté de ça, il y a tout un tas de publics qui n'approchent pas ces technologies parce qu'elles sont vécues comme trop envahissantes, en fait. Et donc, à la fois, moi c'est ce que j'appelle le pouvoir de renforcement des usages des technologies, à la fois lorsqu'on approche une technologie, on peut avoir une espèce de fascination, hein, c'est cet engouement qu'on trouve chez les populations geeks comme ça, mais aussi, à l'inverse, un espèce de rejet. Et il est fort probable que ces machines qui parlent, ces smartphones là qui s'adressent à nous directement vont aussi provoquer un rejet, probablement dans les populations qui sont déjà marquées par une certaine distance avec les technologies.
C'était Pascal Plantard, anthropologue des usages des technologies de l'information et de la communication à l'Université de Rennes.
Jacques Nérin nous a rejoint, bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous seriez utile, vous, un téléphone qui vous réponde vocalement ?
Non, pas nécessairement. Non, je suis tout de même technicien, je suis capable de me tirer d'affaire avec les touches.
Ça va, vous ne perdez pas trop de temps avec tous ces SMS qu'il faut envoyer
Non, j'envoie très peu de SMS, je travaille surtout avec Internet et le courriel.
Jacques Nérin, conseiller national PDC Canton de Vaud. PDC, on va en parler avec vous d'abord. C'est l'un des grands perdants. Le PDC des dernières élections fédérales, il cherche à se relancer. On sait que les histoires de fusion avec le PBD sont dans l'air. Un changement de nom, tiens, est-ce que ce serait quelque chose que le PDC pourrait lâcher pour recréer un espèce de nouveau départ ou peut-être faire plaisir au PBD en vue d'une fusion ? En tous les cas, nous avons entendu Thérèse Meyer hier soir dans Forum qui était prête à envisager effectivement une suppression du C. Vous qui avez fait partie de ce célèbre groupe de travail pour le maintien du C, ça vous fait mal ou vous entrez en matière ?
Mais le but n'était pas de maintenir le C dans ce groupe de travail, le groupe était de comprendre ce que cela signifiait. Alors en gros, ça signifie que nous sommes un parti de valeurs, c'est-à-dire que nous défendons, nous concilions simultanément la responsabilité individuelle et la solidarité sociale. Ce sont les valeurs du christianisme, tandis que la droite et la gauche prennent l'un ou l'autre, les uns le marché, les autres l'État. Donc c'était d'essayer de voir clair dans cette motivation, et c'est clair que le PDC ne va pas changer cela. Il peut rester un parti de valeur sans nécessairement mettre un C dans le nom. Et si, changeant de nom, il réussit à renforcer le centre, à l'unifier, moi je crois que l'intérêt du pays passe avant le fétichisme du C.
Donc vous êtes pragmatiste ce soir. Vous dites on pourrait avoir un PDB fusionné et oublier le C, chrétien.
Oui, mais non, je n'aime pas le PBD parce que ça va très bien en allemand, mais Bürgerlich, ça ne se traduit pas par bourgeois en français. Donc il faudra trouver un autre titre en français.
Vous avez des propositions déjà, vous y avez pensé ?
J'appellerais ça tout clairement le Parti démocrate, comme aux États-Unis. C'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Pourquoi avoir deux adjectifs, un seul suffit ?
Cette fusion, on en parle beaucoup. C'est une affaire de journalistes, d'observateurs, d'analystes, ou ça se trame dans les coulisses avant le 14 décembre ?
Se tramer, c'est un grand mot. C'est peut-être simplement des discussions qui ont lieu. C'est évident que ces discussions ont lieu. Ces discussions n'aboutiront pas avant le 25-26 novembre, puisqu'à ce moment-là, les fractions vont se réunir et les parlementaires vont prendre des décisions. Mais c'est clair que les journalistes sont au courant de ce qui est en train de se passer. Ce serait évidemment un grand événement, et c'est cet événement, ils doivent l'anticiper. Je crois que vous faites votre métier, je fais le mien, en disant oui, il y a des tractations.
Ce serait la seule solution d'ailleurs pour que Evelyne Widmer-Schlumpf soit réélue le 14 décembre. La création d'un groupe parlementaire commun PDC.
Non, pas nécessairement. Il suffit que les groupes votent ensemble, que les Verts libéraux, les PBD, le PDC et les socialistes et les Verts votent ensemble. C'est une large majorité. Elle serait sauvée. On ne peut pas créer un parti, changer le nom d'un parti, organiser la politique fédérale en fonction d'une personne tout à fait respectable. Le véritable objectif, c'est continuer à sortir du nucléaire. Et là, elle est indispensable.
Jacques Nérinck, si on revient sur ce C, d'accord, ces valeurs chrétiennes et tout. Mais pour beaucoup de gens, c'est synonyme aussi de catholique. On sait que le PDC est fort dans les cantons traditionnellement catholiques. Vous venez du canton de Vaud, où le PDC est plutôt un petit parti, hein, canton plutôt protestant à la base. Là, il n'y a pas un risque dans les cantons catholiques que vos électeurs traditionnels soient déstabilisés si ce C s'en va?
Oui. Je crois que c'est une bonne remarque. Effectivement, en 2007, on avait déjà abordé cette question. On s'était rendu compte que les cantons traditionnellement catholiques ne s'y retrouveraient plus. Mais au bout de 4 ans, les idées ont changé. De toute façon, ce parti n'est pas inférieur à une église ou à des églises. Ça doit être clair.
Non, mais les protestants s'en sentent parfois exclus.
Ce serait difficile de défendre cela parce que le secrétaire général du PDC antérieur à celui-ci était protestant et celui du canton de Vaud était également protestant et il y a de nombreux protestants parmi nous. Donc, moi je dirais qu'il faut sortir de la traînée historique du parti catholique conservateur. On est dans de toutes autres circonstances.
Mais à ce jour, dans les discussions, j'employais le mot tramé, mais enfin les discussions de coulisses, Jacques Nérinck, il y a des élus PBD qui vous disent... Oublier ce C, ça nous complique la tâche. Pour mieux s'entendre, il faudrait l'abandonner. C'est dans le deal, entre guillemets, c'est dans les négociations.
Le président du PBD suisse a effectivement dit qu'il n'était pas question de fusion.
À cause du C, selon vous, à cause de cet élément chrétien ?
Non, je ne crois pas que le C soit le véritable obstacle. Si vous regardez les baromètres politiques qui sont publiés régulièrement par les universités, c'est clair que aussi bien les parlementaires des Verts libéraux ou du PBD ont voté exactement comme le PDC. Donc il y a un centre composé pour l'instant de 3 partis. Les unifier, c'est peut-être trop tôt. Constituer un seul groupe parlementaire, ce serait une demi-mesure, mais une mesure qui assurerait alors non seulement la réélection de Jan Widmer-Schlumpf, mais surtout un poids croissant à l'intérieur de ce qui se décide dans le Parlement.
Et donc vous soutenez ce rapprochement, voire dans les années qui viennent une fusion ?
Oui, je le soutiens. Et je dirais qu'à partir de maintenant, la balle est dans le camp du parti du PLR. Est-ce qu'il continue à faire les supplétifs de l'UDC ou bien est-ce qu'il rejoigne le centre?
Si vous êtes d'accord, ça veut dire que Christophe Darbollet, président du PDC suisse, est également d'accord avec vous, parce qu'on a beaucoup de mal à le joindre. Il se fait très rare en ce moment dans les médias.
Mais vous concevez bien que ce genre de politique ne puisse se faire que dans le secret. C'est inutile de le harceler, il ne répondra pas.
Et vous n'avez rien à nous dire sur ça.
Et je ne puis pas répondre à sa place et je ne suis pas dans le secret des dieux. Moi, je dirais qu'il y a peut-être une logique, il y a peut-être une logique helvétique qui va jouer. Et cette logique, c'est le consensus, c'est gouverner au centre. Pour gouverner au centre ce pays, il faut un grand parti du centre.
Le grand parti du centre, on en a souvent entendu parler. Peut-être qu'on s'en rapproche plus que jamais. Je vous remercie, Jacques Narin, d'être venu. Je rappelle que vous êtes conseiller national PDC. On va poursuivre la discussion avec deux correspondants parlementaires. Le nôtre, d'abord, Vincent Bourquin, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis votre invité, Hubert Moser, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de la politique fédérale pour le Tagessanzeiger online. Hubert Moser, ce que vous entendez là, dans la bouche de Jacques Narin, ça vous surprend d'un point de vue alémanique? Lui, c'est parti, il se projette dans la fusion, dans un grand parti du centre. Vous le percevez comme ça, de l'autre côté de la Sarine?
Oui, certainement une fusion, oui, mais ça dépend avec qui. La fusion idéale, ça serait pas avec le parti de Hans Gruner, mais avec le parti de Martin Böhmle. Mais d'ailleurs, j'aimerais quand même faire une remarque à ce qu'a dit Monsieur Narin, qui concerne les conservateurs. Il dit que le parti c'est pas affilié à l'Église catholique, c'est faux ça. En Suisse allemande, ils font très bien le rapprochement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont la peine à progresser dans les villes, parce qu'ils font un rapprochement avec l'Église catholique, et je dois dire que la guerre de Sonderbund, c'est encore très fort dans les têtes, même que les gens savent plus qu'est-ce que c'est très fort encore dedans, et puis à ça, c'est là où il a la plus grande difficulté, le PDC, de percer en Suisse allemand.
Voilà, c'est intéressant, Hubert Moser. Vincent Bourquin, c'est moins fort, du coup, vous pensez, en Suisse romande, bien que on mentionnait, Laurent Caspary mentionnait ces cantons catholiques, le Valais, Fribourg, c'est vrai quand même que culturellement c'est très ancré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Hubert Moser nous dit?
Alors c'est vrai que peut-être qu'en Suisse romande, on oublie un peu ça, quoique, quand on voit des cantons comme le Valais, le Jura ou Fribourg, le PDC reste quand même assez important. Mais c'est vrai que par exemple, on nous disait dans les Grisons, c'est pratiquement impensable que le PBD, qui est vraiment marqué comme un parti protestant, fasse une fusion avec le PDC. Et c'est vrai que peut-être on oublie un peu ça, parce que les politiciens en tant que tels, eux, ils veulent effectivement aller plus loin. Mais les militants et les électeurs, comme le dit Hubert Moser, ont parfois encore cette question du Sonderbund en tête. Au moment d'ailleurs où Urschwaller avait été candidat face à Didier Burkhalter pour le Conseil fédéral, ça avait été un argument de certains de dire non, on ne veut pas voter pour un catholique supplémentaire au Conseil fédéral.
Mais alors si PDC, ça veut dire catholique, et PBD, ça veut dire protestant, est-ce qu'on peut pousser la logique, Vincent Bourquin, en se disant que dans le canton de Vaud, le PBD pourrait avoir beaucoup de succès, par exemple?
Non, parce que...
Bon, remarque, c'est une erreur ce que je fais, parce que récemment, les statistiques ont montré qu'il y a maintenant plus de catholiques dans le canton de Vaud que de protestants.
Oui, mais historiquement, Genève... c'est vrai que les protestants, par exemple, ont beaucoup voté libéral dans le canton de Vaud, ou alors UDC. Donc la question, c'est pas tellement religieuse dans le canton de Vaud, c'est plutôt de savoir si l'UDC va être, à un moment donné, aller trop loin, et que là, il y aurait une scission.
Alors venons maintenant sur effectivement ces chances de fusion. Hubert Moser, vous nous dites s'il y a fusion du côté alémanique, c'est plutôt avec les Verts libéraux qu'avec le PBD.
Ben ouais, je vois très mal Monsieur Gruner. Et pour revenir à la question protestant et catholique, un protestant du Emmental faire une fusion avec une partie catholique, c'est impensable ça. Je vois pas du tout. Alors là, c'est rêvé ça. Moi, je crois que le PDC, c'est pas vraiment la fusion qui va la porter en avant. C'est un nouveau départ, comme ils l'ont décidé en 2003, alors qu'ils avaient un parti, qu'ils avaient déjà toutes les structures sur place. Un ancien collaborateur de Dice avait déjà fait tout un programme, et ils avaient tout bien vu. Mais alors, en dernière ligne, ils ont, pour finir, pas décidé de continuer sur cette voie, et puis se sont retournés.
Et aujourd'hui, on sait pourquoi. Qu'est-ce qui s'était passé?
Ben, je crois que Monsieur Narin l'a expliqué. Il était aussi, il s'est le sait qu'il a emporté. Il voulait pas. Je pense qu'il voulait pas perdre. Ce programme disait qu'ils allaient perdre à un certain moment les parts, mais qu'ils allaient en regagner à partir de 216. Et puis ça, il voulait pas risquer. C'est toujours la même histoire. C'est d'ailleurs ce qui fait aujourd'hui aussi le Parti radical. Ils essayent à bétonner le pouvoir pouvoir qu'ils ont. Il faut jamais oublier que c'est pas seulement les conseils nationaux et les conseils fédéraux, mais le Parti radical et le parti le PDC, c'est quand même le parti qu'ils ont le plus de chefs de service ici à Berne que tous les autres. Ouais. C'est peut-être ça qui donne aussi aux gens une impression qu'il a trop de combines, trop de mélange de tout ça, et qu'ils ont voté un nouveau milieu pour donner à des autres gens une chance pour essayer de débloquer un peu la situation. Parce que si Tarbellé et compagnie ils disent qu'ils gagnent 80% des élections, c'est bien rigolo, mais c'est pas Tarbellé qui les gagne, c'est pas les votations du PDC, c'est les votations de l'administration fédérale, c'est eux qui font ces projets.
Hubert Moser, pour revenir juste sur la question religieuse, ce que vous nous dites quelque part, c'est que dans les cantons en Suisse alémanique, notamment dans les cantons catholiques, cette question reste encore beaucoup plus tranchée que peut-être en Suisse romande. Nathalie Ducommun l'a dit, Vaud, Genève ont des majorités de fait catholiques. Donc c'est vraiment ça le problème, ça, on ne va pas pouvoir imaginer cette fusion à cause de cette question plus tranchée.
Vous voyez, dans les articles de presse, bon, j'ai pas en tête lesquels c'était ça, mais je crois que c'était aussi toute la question de l'avortement, par exemple, qui est à peine 10 ans en arrière, que le PDC en a discuté. Mais dernièrement aussi, Exit, ces histoires de ça. On a directement toujours parlé des évêques, de la l'Église. On les rapproche très souvent de l'Église et des évêques. Mais si l'Église serait vraiment une folk story, comme on dit en allemand, alors elle serait pleine à craquer, alors que ce n'est pas le cas, même pas en Valais.
L'histoire du peuple, oui. Vincent Bourquin, j'aimerais terminer avec vous sur la situation même du PDC. On sent bien que le parti cherche à se relancer. On disait qu'on n'a pas tellement de nouvelles de Christophe Darbellay, d'ailleurs, sur cette question-là. Son avenir est compromis, selon vous?
En tout cas, il est dans une situation difficile s'il n'arrive pas à trouver une porte de sortie. Donc soit ça peut être un changement de nom, soit c'est de tendre la main à un parti. Moi, je ne crois pas tellement une fusion avec les Verts libéraux, mais éventuellement peut-être un groupe parlementaire. Mais s'il n'arrive pas à présenter quelque chose de nouveau, ça sera très difficile. Parce que c'est vrai que pour l'instant, la presse a été assez gentille quand même avec le PDC. Ils ont quand même perdu plus de 2% aux dernières élections. Ça, il faut pas l'oublier. C'est pour ça que Christophe Darbellay, mais aussi Urs Schwaller sont pour l'instant très discrets. Alors que du côté du PPD, là, pour l'instant, on est assez dur, mais je pense aussi que le PPD est en train de commettre peut-être une petite erreur d'avoir un ton aussi dur qu'il a actuellement en excluant pour l'instant toute collaboration avec les partis du centre. Et cette arrogance, ça ne plaît pas non plus beaucoup ici.
Hubert Moser, juste sur la difficulté même du PDC, affaibli par le 23 octobre, Christophe Darbellay joue gros en ce moment, vous pensez, joue sa place de président?
Bon, c'est difficile à dire, mais en tout cas, il faut dire des présidents, si on prend à part Doris Leuthard, c'est un des meilleurs présidents que le PDC a eu. Et je crois qu'il a mûri ces dernières années, surtout les derniers 8 mois, et il a appris aussi à aller un peu moins vite à l'avant. S'ils veulent changer, je vois pas qui c'est pourrait le changer d'ailleurs. Hein. Si on peut changer, on peut le mettre un conservateur, Gerhard Fichter par exemple, mais ça va pas changer les choses. Ça va faire qu'ils vont encore plus perdre ou ils vont se mettre à côté de l'UDC. Il peut mettre un Bischoff. Bon, je sais pas si c'est vraiment une décision. Moi, je crois que Darbellay, il va essayer de trouver quelque chose. Sa seule possibilité, c'est que il est dans la situation difficile qu'a dit mon collègue, parce que il a aidé à remplacer Blocher par Evelyn Wittmer-Schlumpf. Mmh. Et aujourd'hui, il se sent loyal vers Madame Wittmer-Schlumpf. Et c'est pour ça que ça lui met dans un dilemme. Il peut pas venir dire « je vais pas voter Wittmer-Schlumpf ». Alors qu'ils savent exactement s'ils vont voter Wittmer-Schlumpf. Dans 4 ans, ils sont à peu près en dessous des 10%.
Ouais, donc il doit assumer ce premier soutien et évidemment ménager ses relations aujourd'hui avec le PBD. Je vous remercie beaucoup Hubert Moser du Tagesanzeiger Online et Vincent Bourquin. Jacques Nering était avec nous également pour cette anamnèse du PDC. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. C'est l'heure de la météo d'Éric Fauchère.
Une journée grise, telle fut la couleur du ciel de ce lundi. Demain, nous aurons encore droit à de nombreux nuages, mais ils seront moins denses et étendus. Résultat, des éclaircies se produiront. Elles seront généreuses sur le Valais central et les Préalpes. Rappelons que cet afflux nuageux arrive du sud et qu'il s'amoncelle contre la barrière alpine. Des précipitations nombreuses ont touché la région du Simplon aujourd'hui et cela continuera encore demain matin. Avec une limite des chutes de neige touchant les 1800 mètres, il y a de fortes chances que le col du même nom se retrouve enneigé. 8 degrés à l'aube jusqu'à 15 voire 17 l'après-midi, 7 à 2000 mètres. Mercredi, après dissipation des bandes de grisaille de la matinée, vous pourrez profiter d'un ciel dégagé et lumineux, 12 à 16 au plus. Jeudi et vendredi, idem. Le week-end restera doux à toutes les altitudes avec beaucoup de soleil.
La météo avec Transport CH, salon du véhicule utilitaire, du 10 au 13 novembre à Berne.
Infotrafic RSR.
Avec le parking de la Riponne et son service Riponne Express.
Sur l'autoroute Genève-Lausanne, important bouchon signalé à l'approche de la sortie de Morges-Ouest. La circulation est dense en Suisse romande. De forts ralentissements sont toujours signalés sur l'autoroute Lausanne-Genève entre Perly et Bardonnay en direction de la France et en sens inverse sur le pont de la Versoix et Copé en direction de Lausanne, ainsi que sur la bretelle autoroutière de Lausanne-Sud entre Lausanne-Maladière et l'échangeur d'Écublan en direction de Genève. Philippe Vaudan, Eric Jutzet à la technique, Laurent Keller était à l'édition. Vous écoutiez Forum, on vous en remercie, on vous souhaite une bonne soirée.